Les Gones.
Une émission sur Lyon.
Présentée par
Thomas Lacombe
et toute sa bande.
Bonjour et bienvenue chez Les Gones. Après le numéro best-of qui a dû animer votre réveillon, ce sont des Gones totalement inédits qui sont de retour pour leur 9e numéro. C'est le premier numéro de l'année 2015, alors je vous souhaite à tous, chers auditeurs, une très bonne année. En 2015, on ne change pas la formule. Pendant une heure, on parle de Lyon, actu, sortie et puis... En fin d'émission, nous recevrons une association locale. Cette fois, ce sera l'association d'écriture Dans tous les sens. Et nous aurons la chance de recevoir le poète Roger Dextre. C'est à découvrir tout à l'heure. Mais pour passer une heure avec vous, chers auditeurs, mes Gones, ce sont eux. Une Gone d'abord qui n'est pas décidée à raccrocher son tablier. Et c'est tant mieux. Bonjour Marie-Ève et surtout, what's neues year?
Pardon? C'était du hollandais?
C'était de l'alsacien, normalement. La prononciation, ça va pas marcher. Non,
t'es... Goethe's neue Jour.
D'accord, bon, écoute...
C'est beaucoup voilà. Plus joli.
C'est plus joli, oui. Alors, en ce début d'année, il y a une tradition, tu sais, on prend des bonnes résolutions, Marie-Ève. Est-ce que t'en as pris une?
Oh, de plaisir. Continuer un peu la radio, quand même.
Ah, ça, c'est une très bonne résolution. Une Gone qui s'aristocratise en passant le début de l'année 2015 à Vienne. Elle a dû se prendre pour Sissi. Mais quand elle s'est mise à valser, on lui a dit « Non, non, Marie, bonne année !»
Grosse gotte, Thomas.
Merci. Une bonne résolution pour bien commencer l'année, peut-être.
Il faudrait que je fasse du travail manuel. Je me mettrais bien à la ferronnerie pour faire des volutes Art Nouveau en fer forgé. Je pense que ce serait du meilleur effet dans mon appartement.
Ah oui, ça c'est entrée. Une bonne résolution particulière. Et donc, il me semble que tu raffoles des boules de Mozart, c'est ça?
Ya, ya, ya.
Tu m'en dis plus, qu'est-ce que c'est que ça?
J'adore les lécher.
Certes, oui.
Ce sont des petits chocolats fourrés voilà. À la pâte d'amande.
Très bien, ça doit être très bon, effectivement. D'ailleurs, je le confirme parce que j'y ai goûté ces boules de Mozart. Un Gone qui, lui, n'a pas passé les vacances à Vienne. Il était dans une yourte. Bonjour, Florent.
Bonjour, Thomas.
Bon, alors, c'est quoi ça, cette idée de nomadisme de...
Pas nomadisme. Non, c'est beaucoup trop pénible à démonter. Non, c'est une yourte. Voilà. D'accord. On rentre, on sort, on est dehors, c'est sympa.
Et alors, d'où est venue l'idée? Enfin, je sais que ton cerveau est malade depuis longtemps, mais...
Non, mais c'est sympa. C'est comme ça, on fait des feux, on court tout nu en hiver. Enfin, c'est bien, tu vois. Je suis malade depuis deux semaines. C'est très, très bien.
Et tu prends des bonnes résolutions, du coup?
Non. Non, on mange un cœur de cheval cru pour le réveillon. C'est...
Bon, et puis c'est mon plus beau cadeau de Noël. Oh oui, une petite nouvelle dans la bande des Gones, chers auditeurs. À mi-chemin, exactement entre Fanny Ardant et Christine Bravo, mais en plus jeune, c'est un peu la fémène de la bonne bourgeoisie bordelaise, Mathilde. Je suis ravi que tu aies accepté de prendre place derrière ce micro. Bonne année. Hein.
Bonne année à toi aussi.
Alors pour les fidèles auditeurs de Transistor, t'es loin d'être une inconnue. Hein. Tu animes l'émission d'histoire Transistorien, côté de Marie et puis de Clément aussi. Et puis tu participes aussi à l'émission Les yeux ont des oreilles. Alors bah, bon, comme tous les autres, question, est-ce que tu vas prendre des bonnes résolutions cette année?
Oui, je vais prendre une bonne résolution que j'ai déjà prise l'année dernière et qui s'est un peu interrompue au mois de septembre.
D'accord. Ah, bah, jusqu'en septembre, c'est déjà bien. Hein.
Bah, oui, je suis assez fière de moi, mais le but serait de ne pas la reconduire l'an prochain, c'est-à-dire de la perpétuer.
Alors, dis-moi, qu'est-ce que c'est ?
Alors, je suis absolument révoltée par le gaspillage alimentaire,
oui.
Mais aussi par le céleri du rue. Et donc, ma bonne résolution, c'est de finir mon assiette.
Ah non, c'est bien, c'est bien.
Céleri ?
De céleri, oui.
Mais c'est du masochisme. Enfin, c'est, je veux dire, tu peux t'entendre avec le fer forgé, tu vois, je pense que... à faire ensemble.
J'avais fait la même chose pour les yaourts sans sucre il y a quelques années au lycée. Je m'étais habituée à les manger sans sucre. J'y suis arrivée au bout d'un an.
Je pense que c'est le début d'émission le plus palpitant de l'histoire, les gars. Céleri, yaourt, sucré. Très bien, ouais.
Des vraies souffrances du quotidien dont on ne parle pas assez. Quoi.
Enfin, un Gone qui n'est pas en plateau mais que l'on embrasse, un Romain, notre envoyé spécial dans le monde du sport lyonnais. C'est Marie-Ève qui va lire sa chronique tout à l'heure et comment dire. On a hâte.
Oui, bah, vous voyez déjà enrouée d'ailleurs, j'essaye de la faire un peu plus masculine cette fois. Ah, masculine
oui.
Carrément.
Oui, bien dit donc. Et est-ce qu'il va y avoir des petites imitations? Ça devient traditionnel
Oui, mais ça va, il a été gentil, c'est des imitations que je connais.
D'accord, et puis pour finir, un gros bisou à une Gone overbookée, Tatiana, si tu nous écoutes. Bon allez, fini les présentations, il est temps de faire des Goneries, l'actu nous appelle. Actu, donc, on va jouer avec l'information locale. Marie, elle va vous instruire à sa manière sur Lyon et son histoire. Marie-Ève, on le disait, elle va parler sport grâce à Romain. Mais avant de faire tout ça, Florent, je t'ai confié une mission particulière en ce début d'année. Un peu l'heure du bilan. Et surtout qu'on a une petite nouvelle, la belle Mathilde, derrière le micro. Alors, après un jingle, tu vas avoir la lourde tâche de présenter l'émission et toute l'équipe. Et donc, pour une fois, ce n'est pas un personnage que je reçois, mais c'est Florent qui va nous parler en son nom.
Alors, une équipe qui n'est pas tellement renouvelée finalement cette année. Donc, je vais vous présenter ceux que vous connaissez déjà. Donc, Thomas Lacombe, qui est très bon dans ce qu'il fait, comme son nom l'indique. Donc, Lacombe qui l'habite, on peut le dire.
Oui,
toujours plus sympathique dès le début d'année, toujours très chaleureux, très tendre. Par ailleurs, nous avons Marie-Ève qui revient nous parler de quenelle et autres choses gargantuesques.
Oui.
Toujours pour nous mettre en appétit avec des recettes dont on se demande si elle les a prises finalement dans un livre du Père Ducrot ou le Kamasutra. On n'est jamais très sûr. On n'est jamais très
pourtant,
sûr.
Tu connais ma bibliothèque et mes favoris.
Bah oui, je sais. Non, mais je me souviens de cours de latin médiéval où tu étais plus prude alors qu'il s'agissait seulement de testiculus de castorum. Mais donc apparemment, la quenelle te libère énormément. Par ailleurs, Marie, qui en outre d'être une présidente formidable, est également une chroniqueuse exceptionnelle. Des récits d'histoires qui, pour être bref, n'en sont pas moins palpitants. Voilà.
En fait, ta bonne résolution en 2015, c'est d'être lèche-botte, non, c'est
exactement.
Ça,
non, mais je compte toujours sur les papillotes. J'ai vu qu'il y en avait eu à la dernière réunion. Moi, je compte. Enfin, on en a beaucoup parlé d'ailleurs des papillotes. Et enfin, on a troqué une blonde pour une Auburn. Je sais jamais comment on prononce ce mot. Je suis vraiment désolé.
Auburn,
oui, d'accord. Et donc une Auburn végétarienne
pour une Auburn,
de surcroît. Non mais voilà, c'est intéressant, donc j'espère qu'on ne perdra pas au change.
Mais tu l'as préparé ta chronique ou c'est juste
absolument
de l'improvisation?
Absolument pas, moi j'avais... Non, c'est complètement de l'improvisation.
Merci pour cette présentation rapide de l'équipe, Florent, mais très efficace. Et puis peut-être que pour bonne résolution de 2015, peut-être que tu pourrais décider d'écrire tes chroniques et de ne plus les improviser. Il est temps de jouer, cher Gone, avec l'actualité locale, avec cette question. Qu'est-ce qui s'est passé mercredi 7 janvier à Lyon, à 18h, place des Terreaux?
Évidemment, la manifestation en l'honneur de Charlie Hebdo de l'attentat.
Là, la question n'était pas très difficile. C'était effectivement ce rassemblement de soutien après la tragédie du massacre de Charlie Hebdo. Du rire aux larmes, on va dire, chers auditeurs. C'est aussi ça, la radio. C'est aussi ça, les Gones. Et oui, nous n'allons pas vous mentir. Certes, cette émission est diffusée sur Transistor à partir du mercredi 14 janvier. Mais nous l'enregistrons jeudi 8 janvier, c'est-à-dire le lendemain de ce rassemblement. Hier, donc, le mercredi 7 janvier 2015, la République a vacillé quand on a massacré 10 journalistes et 2 policiers. Alors oui, hier, comme la plus belle des réponses à cette haine, à cet extrémisme, nous étions 15 000 place des Terreaux, de tous âges, de toute religion, de toute classe sociale, de toutes opinions politiques. Hier, nous étions la France debout, la République une et indivisible. Et hier, au milieu de cette foule, oui, j'étais très fier d'être français, d'être lyonnais. J'étais très fier de dire, moi aussi, que j'étais Charlie. Alors, vous y étiez autour de la table, vous, à ce rassemblement Place des Terreaux, Florent, je crois.
Ah oui, moi j'y étais.
Ouais, il y avait énormément de monde. Hein.
Ouais, ben moi j'ai pas réussi à entendre le discours de Colomb parce que j'étais coincé dans la rue qui va entre Opéra et Terreaux.
Ah bah, j'étais au même endroit que toi, je crois, rue Sarlin. Ouais.
J'étais coincé là, mais c'était émouvant de voir autant de gens.
Ouais, il y avait énormément de monde. Un discours de Gérard Collomb, et puis après un discours du président de la Société des journalistes du Rhône, puis. Un peu de musique classique et surtout beaucoup d'applaudissements. Est-ce que quelqu'un d'autre y était autour de la table à ce rassemblement?
Personnellement, j'y étais.
Là. Roger Dextre, notre invité, qui a déjà pris place derrière le micro. Vous voulez réagir à ce rassemblement, à ce qui s'est passé hier, hein, parce qu'on ne le cache pas à nos auditeurs, on enregistre le 8.
C'est-à-dire qu'on ne sait pas bien nommer ce qui se passe, parce
bien
que
ce n'est
pas une manifestation. Ouais, c'est un rassemblement, mais il n'y avait pas la niaiserie. Qu'on a parfois, il y avait un grand silence, j'ai trouvé.
Ouais.
Et puis effectivement, beaucoup d'émotions au moment des applaudissements. Ouais. Et puis au moment où les gens...
Mais en plus, moi, j'y suis repassé à 22h et il y avait encore des gens devant qui déposaient des bougies sur les marches de l'hôtel de ville.
Florent, je crois qu'en plus, tu as été particulièrement touché hier parce que...
Parce que moi, depuis que je suis petit, en fait, je lis, les, dessins, je lis les albums de Cabu et de Volinsky.
Oui.
Et du coup, ça m'a fait bizarre. Ouais.
Alors, est-ce que quelqu'un autour du plateau veut rajouter quelques mots rapides sur cette tragédie qui aura été largement commentée quand on diffusera mercredi 14 janvier
Et qui est déjà largement commentée
quand on enregistre le 8. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose?
Pour pas laisser l'extrémisme sous une autre forme se nourrir de cette tragédie, j'aimerais quand même rappeler qu'il faut pas essayer d'analyser la chose en faisant des amalgames entre l'islam et il faut pas laisser l'islamophobie reprendre et instrumentaliser cette tragédie.
C'était effectivement un message nécessaire à faire passer et on l'entend dans les médias, heureusement, Mathilde. Bon, et puis une solution, quand les temps sont troubles, on se dit qu'on aimerait changer d'air, qu'on aimerait changer d'époque. Alors les voyages dans le temps n'existent pas encore, mais nous, à Transistor, on a autre chose. Elle va essayer de vous redonner le sourire et vous convoque à la fin du Moyen-Âge. Elle, c'est Marie, et je lui laisse le temps d'un jingle pour se préparer parce que c'est pas une mince affaire de passer après ça.
Aujourd'hui, je renie mes principes d'historienne.
Ah bah bravo !
On va faire de l'histoire économique. Bref, on est au milieu du XVe siècle.
Ouais.
La bourgeoisie marchande soutient le roi Charles VII. Elle l'aide à mater une rebelle du peuple lyonnais. Rebelle, avant d'être un groupe de jeunes fachos, ça veut dire « rébellion parce qu'on crève la dalle en patois lyonnais ».
Ah oui, je ne savais pas.
Et oui. Dans un autre registre, la bourgeoisie mate une jolie fille. La jolie fille a des traits italiens. On l'appelle la richesse.
Oui.
Charles VII a créé 3 foires pour Lyon. Louis XI y ajoute une 4e. J'ai bien compris, la richesse, elle fait des gâteries aux bourgeois. En tout cas, des banquiers italiens trouvent qu'Avignon et Genève, ça craint trop. Ils s'appellent Médicis, Gondi ou Gadagne. Ils s'installent à Lyon. À la fin du 15e, les foires de marchandises deviennent des foires de change. On parle beaucoup de langues en ville. Tellement qu'on surnomme Lyon « Mirelingue ». Ça veut dire « mille langues ». Avec 1000 coups de langue, je me suis dit qu'on lui en ferait bien des choses à la richesse. Louis XI veut que les nobles et les bourgeois achètent français. Il ne pose pas en marinière pour le parisien, mais il essaye d'implanter l'industrie de la soie à Lyon. Il ordonne aux bourgeois de créer des soieries. Les bourgeois ont pensé, on veut continuer à caresser la richesse. Du coup, les bourgeois ont dit, on veut pas que les Italiens partent. La soie ne s'implante pas à Lyon. En 1536, les bourgeois sont fâchés avec les Génois. Ils acceptent alors d'accueillir la première fabrique de soie lyonnaise. Le consulat de la ville les encourage. Elle a la masse de pauvres et d'orphelins à leur prêter. Comme dans toutes les sociétés industrielles, on a de la manœuvre bien sous-payée.
Oui.
Jusqu'en 1554, l'activité n'est pas encadrée et n'importe qui peut s'installer à son compte. Énorme bordel. À la même époque, l'imprimerie débarque à Lyon. C'est les années 1470. Je me suis dit qu'un vent de folie soufflait peut-être à Lyon. Je voulais vous vendre du rêve. J'ai cherché s'il y avait des trucs croustillants et des livres érotiques.
Ah oui, bah oui, c'est ta spécialité en même temps. Hein.
Et j'ai rien trouvé. Ah. En fait, les imprimeurs font surtout des gros bouquins de droit. Je crois qu'on a les bouquins qu'on mérite. Ils font aussi des romans de chevalerie, des manuels de médecine, des livres religieux et des pièces en langue vulgaire. Les imprimeurs les plus friqués ont mis la richesse dans leur lit. Ils sont aussi libraires et impriment ce qu'ils veulent. Le plus connu, c'est Sébastien Griff. Je vous le cite parce qu'une rue de Lyon porte son nom et que je me suis longtemps demandé qui c'était. Lui, je peux vous assurer qu'il a joui de sa richesse. En 1532, il a édité Rabelais. Du coup, je pourrais vous parler de littérature. L'école lyonnaise s'agite avec vigueur. Moi, je pense à Maurice Sève et Louise Labbé. Heureusement qu'on a des imprimeries pour les éditer. Je vous laisse vous toucher dans la soie et la poésie. Bref, cette année, je suis raffinée. Comment ça, c'est raté?
Bon, allez, retour au présent. On continue de jouer avec l'actualité locale grâce à cette question. Lyon vient d'être classée meilleure ville d'Europe pour... Mais pourquoi?
Attends, moi je sais, c'est toujours les boîtes d'échangisme.
Non, ce n'est pas les boîtes d'échangisme.
Pour les clubs libertins, pour les quenelles.
Ça fait 3 ans qu'on a le titre. Quand
même, pour l'inflation dans les prix des musées.
J'ai peur, l'inflation après les clubs d'échangisme.
À Vienne, c'est bien pire, je t'assure.
C'est incroyable. J'ai été à Vienne, les musées coûtent un prix.
Ah ouais, ils n'ont pas compris le principe du tarif étudiant là-bas.
Bon, c'est le quotidien britannique de Daily Telegraph qui vient de publier un classement des 10 meilleures villes d'Europe, à la première place duquel on retrouve Lyon. Oui, mais un classement selon quels critères?
C'est un classement positif ou négatif?
Ah ouais, c'est plutôt bien pour la ville.
Je sais pas, en même temps, c'est les Anglais qui classent les villes. Moi, j'ai quand même toujours un doute. Tu vois, alors, ils aiment quand même quand ça pleut et quand c'est bouilli.
C'est un lien avec les universités ou pas?
Non, ça n'a pas de lien avec les universités. Alors pourquoi, en deux mots, hein, Lyon est-elle la meilleure ville d'Europe ? Il y a Séville, Pisenne en République tchèque, Mons en Belgique, ou bien encore
je
Berne.
C'est bizarre, non ? C'est vrai, c'est bizarre. Il y a une ville belge dans un classement des meilleures villes d'Europe, c'est chelou. C'est possible.
Et la deuxième ville française dans ce classement, c'est Deauville à la 8e place.
Non, mais voilà,
première,
non, mais voilà, voilà, Lyon. Voilà, non, mais tout est dit. Tout
et
est
justement,
dit.
Réfléchissez, c'est pas des villes forcément très connues, à part Lyon. Alors pourquoi ?
C'est des villes où il y a de l'eau.
Oui, c'est des villes où il y a de l'eau, mais c'est pas la meilleure ville pour l'eau.
Il y a un
l'eau,
casino quoi. À Lyon ? Enfin, à part les supermarchés.
Non, ce n'est pas le casino. Peut-être qu'avec un indice, vous trouverez.
Il y a des courts séjours que l'on voudrait éternels. Et ce coin de Touraine, parfois méconnu, mérite une attention particulière. Elle regorge de richesses que je vous propose de découvrir dans Courts séjours.
Qu'est-ce qu'on s'amuse.
C'est une chaîne de télé locale de Touraine, quoi. Bon, elle vous a donné la réponse, cette animatrice journaliste.
Pour les courts séjours. C'est oui. Pour les meilleurs courts séjours.
C'est ça, effectivement.
Parce qu'on n'a pas envie d'y rester longtemps. Donc c'est les villes qui sont les mieux pour pas y rester longtemps, c'est ça.
Parce que c'est court, donc c'est bon. Mais c'est, mais oh, mais ces Anglais.
Ah, mais ils sont pervers.
Lyon est donc la meilleure ville d'Europe pour un city break, un court séjour, hein, comme on appelle ça outre-Manche. Bon, oui, mais alors votre avis.
On appelle ça un city break.
Un city break.
Genre comme un prison break. C'est t'as envie d'en partir vite, c'est ça.
C'est, non, mais oui, c'est tu tatoues sur le corps le plan de Lyon, ça peut être pratique. Ouais. Bon, mais grâce à quoi, à votre avis ? Qu'est-ce qui fait que. Qu'est-ce qui attire là pour un court séjour ? Pourquoi les Anglais ont envie
le
de venir
Lyon,
pour un.
La fête des Lumières.
Non, c'est pas dans l'article. Peut-être, hein, mais c'est pas les critères qui ont été retenus. D'autres idées, Marie-Ève ? Qu'est-ce qui. Toi, si t'es anglaise. Tiens, mets-toi dans la peau d'une anglaise. Fais-moi un accent.
Mais j'allais
britannique.
Dire non, c'est parce que ma maman vient régulièrement juste pour une nuit. Donc elle a boosté les ventes.
Attends, est-ce que la anglaise Jean vient juste pour voir ta maman pour une nuit à Lyon ? Est-ce que c'est ça le... Non, parce que là, vraiment, Marie-Ève, on en découche des vertes et des peignures. C'est n'importe quoi.
Elle a donné l'exemple aux Anglais, c'est tout.
Cette émission, elle part très mal. Hein, bon. Marie, qu'est-ce qui peut être un critère ? Pourquoi, toi, si t'es anglaise, pourquoi tu viendrais à Lyon ?
Parce qu'une fois que t'as fait deux bouchons lyonnais, t'as l'appétit coupé et t'as plus qu'à repartir.
Effectivement, la gastronomie est un des critères. Le fait que ça soit une capitale de la gastronomie, ça attire les Anglais. Mathilde,
mais
toi ?
Mons, c'est une capitale de la gastronomie.
Mais c'est peut-être pas les mêmes critères partout.
Non,
Mathilde.
J'allais dire pour la tarte à la praline, elle est certainement number one en Europe.
Ah oui, ça évidemment, mais c'est dans la gastronomie. Ouais. Bon, ce qui les attire, c'est donc la gastronomie, ça vous l'avez bien compris. Les quais de Saône aussi, le musée des Confluences, hein, ouvert récemment.
Mais c'est des Anglais, enfin, je veux dire. Le musée des Confluences.
Ben oui, ça
j'ai vu la gueule.
Ils aiment bien l'éclectisme, ça oui. Va très bien.
Ah, bien sûr.
Attends, bien les vaisseaux spatiaux.
C'est quand même les anciennes collections du musée Guimet, qu'est-ce que vous dites, c'est
quand
même pas n'importe
quoi. Est-ce que juste ils ont fait un classement de 10 villes avec des critères différents pour chaque ville ? Parce que dans ce cas-là, ça s'appelle pas un classement en fait, ça s'appelle une liste. On en a déjà parlé.
Non, c'est...
Et les listes, c'est dangereux.
Mais donc,
on est tous d'accord là-dessus.
Non, ne dis pas que je m'exprime mal. Je dis juste que les Anglais
non, que
expliquent après
mal. Oui, non,
dans l'article pourquoi ils viennent à Lyon. Et donc, ils viennent aussi pour la Villa Florentine, qui est un hôtel de référence apparemment. Mais surtout, c'est l'arrivée de la liaison Londres-Lyon par l'Eurostar, hein, dès
Londres.
Le 1er mai, Londres ouais. Du coup, oui, qui va permettre à la ville hein, de vraiment être rapprochée de l'Angleterre. Il suffira de 4h41 minutes pour relier les deux métropoles en train. Et ça, c'est un argument phare aussi hein, pour justifier la première place dans le cœur des Lyonnais de Lyon.
Bon, des alors. Anglais de Lyon. Des Lyonnais de Lyon.
Oui. Dis donc, tu veux qu'on en parle de ta chronique
on
à toi
en parler, on va en parler.
Ouais, Bon alors bizarrement dans la liste, hein, ce qui attire les Anglais, c'est pas vraiment la vie sportive lyonnaise. Faut dire que transition. Hein, faut dire que s'ils écoutent Romain et sa chronique, hein, ils savent que cette année Lyon a un peu de mal hein, niveau sport. Justement, en ce début d'année, pour notre journaliste sportif en herbe, c'est l'heure du bilan et c'est Marie-Ève qui sert de prête-voix. Et dans ces cas-là, on sait que oui, va y avoir du sport.
Oh, 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 mais c'est le Père Noël. On préfère tous sa fille, on est d'accord. Enfin, le « on », je suis pas d'accord, mais bon, ça fait rien. Et c'est parti pour cette chronique sponsorisée par le club Deep Pharaoh. Je laisse Thomas vous expliquer de quel genre de club il s'agit.
Pardon, t'imites tout le monde comme Gandalf.
C'est parce que j'ai vu le film aussi récemment.
Du Père Noël ou de Gandalf? Non, parce que je comprends pas. D'accord.
Voilà, Thomas, explique-nous ce qu'est le Deep Pharaoh, parce que ça m'a intrigué.
Je ne sais pas du tout ce que c'est. Bon. Je ne suis pas dans le cerveau malade de mon frère non plus, je ne peux pas être dans tous
alors,
les cerveaux.
Alors, pour nos chers auditeurs, explication lors de la prochaine émission.
Ouais, ouais, je trouverai une explication.
On m'a dit donc de faire le bilan de l'année 2014, enfin on a dit à Romain, bref, dans le monde sportif lyonnais. Et on commence par l'OL. Cette année, le bilan est plutôt positif, même s'ils se sont fait éliminer de l'Europa League avant les poules, que la défense est une passoire et que Danick est toujours là. Mais c'est pas Danick le rouge, non? Ça n'a rien à voir.
Non, je crois qu'on dit Danick en plus, oui, mais c'est pas grave.
D'accord, il manque à la CDI, dis-le à Romain. Sinon, on peut noter que Gourcuff est encore blessé.
Ça, c'est bien prononcé.
Ou presque. Et que Jean Mich-Mich.
Mais c'est pas possible.
Je pense qu'elle le fait exprès, enfin, je veux dire, à un moment.
Bon, en tout cas, que Jean est toujours là. On va retenir trois moments forts de ce début de saison.
Jean-Michel Aulas, quoi. Enfin.
Ah, je savais pas son petit nom.
Président de l'Olympique Lyonnais, quoi, enfin, je veux dire. Oui.
Bon, on va retenir donc trois moments forts, et je parle pas de ma chronique, de ce début de saison.
Non, je pense pas, ouais.
Tout d'abord avec la révélation Alexandre Lacazette, meilleur buteur de championnat,
ça,
avec 17 buts. 17 buts quand même, Thomas.
Lacazette, oui.
Ensuite, la claque 3-0 contre le rival stéphanois. Et pour terminer, je soulignerai la très bonne performance des Gones en étant deuxième au moment de la trêve hivernale.
Eh ben oui, quand même, oui.
Les Gones de l'OL, bien sûr, parce qu'ici, il n'y a plus rien à espérer. Le bilan de l'OL féminin? Mais je dis oui, oui, oui. Alors ça va être une imitation. Je vous explique de quoi. C'était une imitation de...
Non, n'explique pas, n'explique pas.
De Julien Lepers, que j'ai regardé pendant toute mon enfance. Je l'ai regardé pendant toute mon enfance quand même. Je me suis entraînée.
Oui, oui, oui. C'est comme ça.
Ah, mais je m'en souviens plus. Oui, c'est vrai que ça fait quelques années que...
Incroyable.
Que je l'ai...
Incroyable.
Bon, presque parfait. Romain me déboussole cette année. Bon, c'était presque parfait, si ce n'est l'élimination en Coupe des Champions. Mais cela n'y fasse en rien leur talent. Merci mesdames, vous remontez le niveau du sport lyonnais.
Merci les lyonnaises, oui.
Passons au basket maintenant. Quoi? J'ai dit un mot qui fâche? Ah non, je ne l'ai pas encore dit. Énervant. Mais c'est ce qu'ils sont. Depuis que le coach Pierrot est parti pêcher sur la Lune, on voit enfin la couleur de la victoire à Lyon.
Eh oui.
Mais ne nous réjouissons pas trop vite. Edwin Jackson est en partance pour Barcelona, l'arrière-garde villeurbanaise. Pourtant, si flamboyante, va sûrement demander au secours aux pompiers. Et puis, qui sait, peut-être qu'Andersen va enfin bien jouer. Non, Romain déconne. Pour terminer, en bref et sans respirer, le bilan de 2014 des autres sports évoqués dans cette chronique par Romain depuis septembre. 3, 2, 1, c'est parti. On commence avec le loup qui est au fond du trou. Ah ouh, merci Tatiana, pas loin de repartir en D2, il faudrait faire une épilation. On continue avec un calme plat, une sorte de désert sans dune, celui du bilan sportif de Thomas. On termine avec les lions de Lyon, les hockeyeurs qui n'ont toujours pas retrouvé de couleur. Ouf, c'est fini. Et c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais vous retrouverez très vite Romain pour une nouvelle chronique sportive. Et d'ici là, n'oubliez pas, lavez-vous après le sport, sinon vous sentirez le... Florent.
Et si on sortait, chers auditeurs, pour ça, hein, vous le savez, on se la joue collaboratif ici, chaque gone hein, va vous donner ses bons plans ou ses envies de sortie, et puis vous allez découvrir tout ce que Mathilde aime faire dans Lyon, prenez des notes, vous pourrez peut-être la croiser, mais d'abord, à peine sortie du vestiaire...
Ça en vaut la peine.
Ah bah oui, bien sûr, enfin, c'est pour ça que je le dis, enfin, la plus toquée des gone sort son fouet pour vous faire baver, cuisine, sans se prendre le chou.
Après le menu de Noël, voici le menu des rois. et toujours aussi lyonnais et authentique, je vous le promets. Et sans trop de galetade. Première classe de galettes tout d'abord.
Oui.
Vous allez être déçus. Oui, pour les galettes salées en plat de résistance, je n'ai rien d'autre à vous proposer que de piètres galettes de pommes de terre.
Oh, c'est
alors,
bien,
je ne sais pas si c'est encore une énième légende inventée pour la fierté lyonnaise, mais j'ai découvert dans mes recherches que la seule, la vraie, l'originale galette de pommes de terre est, et bel et bien, lyonnaise.
Mais on a tout
et
inventé oui. à Lyon. Enfin,
c'est sûr que personne n'a jamais pensé à mettre des pommes de terre dans une galette. À Paris,
bon, clair. Attention, justement, j'ai mis des nuances. La galette lyonnaise ne ressemble pas à ses cousines germaines, ou plutôt germaniques, appelées tendrement kartoffel pouffer outre-Rhin ou Grumbereckeichler en Alsace.
Répète. Le premier surtout, oui.
Kartoffel pouffer, hein. J'espère que c'est bien ça.
J'adorerais manger des kartoffel pouffel, c'est ça comment tu
veux dire ?
Pouffard. Je le prononce.
Mais... J'espère que c'est bien ça, parce que j'ai pas vérifié mes sources.
Oui,
mais bon. Bref, on met du beurre et des oignons dans une poêle et on rajoute les patates cuites et écrasées grossièrement avant de déposer la mixture dans un plat à gratin et de lisser le tout pour que ce soit bien mince et donc que ça ressemble à une galette.
Bah oui.
Et puis on fait un peu gratiner le tout. Ça, c'est la galette
bien,
lyonnaise.
Ça. Oui, ça donne envie.
Et on
ça.
Aromatise souvent la galette à la ciboulette. Deuxième classe de galette ensuite. Après le plat de résistance vient
le
fromage. Merci Marie, bien, elle me connaît bien maintenant. Jamais un repas sans fromage avec moi, vous le savez bien. Dans la rubrique fromage de la région lyonnaise, on trouve en effet la fameuse galette des Monts d'Or ou galette des Monts du Lyonnais, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Alors qu'est-ce que c'est que ça, cette galette ?
Alors certains, des puristes peut-être,
affirment
que c'est un fromage disparu. Et oui, comme les espèces d'animaux disparus, on a aussi les fromages disparus ou en voie d'extinction.
Non mais il n'y a qu'à Lyon, ça, les fromages
et je
disparus.
Je propose d'ailleurs de créer une ligue de protection des fromages, mais ça sera pour une autre émission.
Oui, on
dit ça. Mieux à Brigitte Bardot. Elle représente mieux le fromage que l'animalité en ce moment.
Bon, donc revenons à la galette des Monts d'Or, qui est un fromage disparu depuis que son dernier producteur est décédé en emportant dans la tombe le secret de fabrication de ce fromage.
Est-ce que personne ne voulait le faire à part lui ? C'est quand même un signe.
Mais qu'à cela ne tienne, même si ce ne sont que des contrefaçons, les fromages Monts d'Or que l'on peut trouver actuellement sont des fromages au lait cru de vache ou de chèvre, à l'aspect très étonnant d'un petit disque mince, donc d'une galette.
Ouais.
Précisons, de 8 à 9 cm de diamètre et d'1,5 cm d'épaisseur.
Ouais, c'était important ça. Ouais.
À la croûte orangée et à la pâte ivoire très crémeuse. Sa particularité, c'est que grâce à sa faible épaisseur, il peut être égoutté et ressuyé rapidement. Mais il faut quand même 3 semaines pour l'affiner, n'est-ce pas Marie ?
Pourquoi ? Quand tu fais la vaisselle de ton fromage, ça rentre dans le... c'est mieux.
Bon, troisième classe maintenant, premier dessert. Là, on s'éloigne un peu de Lyon, mais on ne va pas très loin. Dans l'Ain, à Pérouge, que les historiens et surtout médiévistes autour de cette table connaissent bien,
Pérouge,
n'est-ce pas ?
Pérouge, c'est magnifique.
Alors, moi, je vais toujours là-bas en city break. J'adore.
Très belle
c'est
idée.
Merveilleux.
Saviez-vous aussi que cette pittoresque bourgade possédait une spécialité, la galette au sucre ?
Ah non,
c'est même une marque déposée par la descendance d'Anthelme Thibault, vaillant défenseur de la cité au début du XIXe siècle, descendance propriétaire à présent de l'hostellerie au Vieux-Pérouge.
Ah bah dis donc, oui.
Composée de levure, de beurre, d'œufs, de sucre et de farine, la pâte doit lever 2 heures avant qu'on la mette sur une plaque de cuisson en rabattant les bords. On recouvre de sucre semoule, on rajoute encore un peu de beurre, on cuit 10 minutes et on sert tiède.
Très très diététique.
Enfin, pour terminer sur une quatrième et dernière sorte de galette, cette fois beaucoup plus classique, je tiens à vous parler du projet absolument audacieux et génial d'une équipe de Lyonnais à l'estomac chevronné, sous la direction de Marjorie, sur le site Fin de Lyon, vous trouvez tous les renseignements nécessaires. 12 gones se sont en effet retrouvés au Baragone, du collège Hôtel dans le 5e.
Ouais.
Et il faudrait, je pense, qu'on y aille un jour tous ensemble.
On ira.
Pour procéder à la dégustation de pas moins de 24 galettes des rois frangipane ou crème d'amande, afin d'élire la meilleure galette des rois de Lyon 2014.
Mais et ça, après, ils ont été nagés dans la Saône.
Ça c'est un projet.
Ça, c'était pas marqué.
Ça, c'est bien. 24, ça fait beaucoup.
Saluons donc cet exploit au lendemain des fêtes de fin d'année.
Ça, c'est des gens qui savent vivre. Voilà.
Ça fait quand même une demi-galette par personne. Enfin, genre...
bah, justement, je vais expliquer comment ils ont procédé.
Alors, comment on fait pour manger une galette ? On ouvre la bouche. Couper de part d'abord.
Déjà, ils ont décidé ce qu'ils allaient noter. Ils ont noté d'abord l'esthétique, le feuilletage, le fourrage et puis le rapport qualité-prix à chaque fois sur 5. Les 3 groupes de 4 testeurs ont dévoré chacun 8 galettes. Après ce premier tour, chaque quatuor a élu son top 2. Puis tout le monde a dégusté ce top 6 pour élire le top 3 des meilleures galettes des rois lyonnaises. Toutes les galettes ont été goûtées à l'aveugle, bien sûr.
Ah bah oui.
Mais du coup, ça, c'est extrêmement dangereux parce que tu ne vois pas la fève avant de l'avaler. Ce qui est quand même... Mais du coup, vu qu'ils avaient une galette pour deux, la moitié était roi, l'autre moitié était reine, c'était nickel. Non mais c'est parfait. C'est idéal. Non mais c'est la paix dans les ménages, cette solution. Faisons tous ça.
Donc justement, leurs trois favorites, c'est leur blague à eux, hein, je ne le revendique
oui.
pas,
oh,
sont
oui.
donc number 3, la galette de chez Bouillet, number 2, la galette de chez Sève, et number 1, the best one, la galette de chez Délices d'Essence, qui rafle la mise comme l'an passé avec une note de 16,5 sur 20.
Délices d'Essence, c'est une boulangerie, c'est sûr.
C'est ça. C'est une boîte qui fait partie du classement lyonnais. Tout
extrait
ça.
Des commentaires pêle-mêle, ouais. Tout dans le feuilletage et rien dans le fourrage. Peut-être pourrait-on se joindre à eux l'année prochaine ou créer notre propre groupe de dégustation.
Je sais pas, honnêtement.
Mais il faudra s'arranger pour que Thomas ait la fève, sinon ça va créer des ennuis diplomatiques.
Bon, après cette orgie de galettes, hein, une petite promenade hein, et plus que nécessaire, surtout après les 24, là, pour digérer, on va un petit peu sortir dans Lyon. Et puis, je vous l'ai promis, surtout, Mathilde va vous faire rêver. Mathilde, où vas-tu emmener nos auditeurs dans Lyon? Où veux-tu sortir?
Eh bien, j'ai découvert que si vous vous rendez à l'auditorium de Lyon ce week-end du 16 et 17 janvier pour la soirée Strauss...
Elle a une jolie voix, hein.
Grâce à l'opération fauteuil et tribune, pour 20 euros seulement, vous pourrez également assister à un match de l'OL au stade de Gerland.
C'est pas mal.
C'est pas beau, ça. C'est une réconciliation entre les footeux et les amateurs de musique classique.
Tu y vas à quelle heure, que nos éditeurs sachent qu'ils prennent leur billet? Tu y vas à quelle heure, toi?
Il faut que je regarde.
Et tu vas à quel match?
À quel match? Mais je demande des conseils, justement. J'ai aucune idée de quoi aller voir. Moi, peut-être qu'ils ont.
Demande pas à Marie-Ève, hein.
Si,
t'as compris,
mais... je demanderai à mon cousin d'abord, avant de te répondre.
Bon, allez, Florent, où est-ce que tu nous emmènes?
Alors, moi, je vais pas à l'auditorium.
Non, non.
Mais je compte faire le musée des Confluences dès que possible.
Ah, ben oui,
parce que
sûr.
Maintenant que je sais combien il a coûté, je me dis, faut aller le voir avant qu'on le ferme pour faillite. Tu vois,
mais c'est un succès. Il y a déjà plein de gens qui y vont. Il y a la queue comme pas possible pour y aller.
Mais en même temps, ils font la pub dans tout. Jusqu'à Marseille, il y a des pubs pour le musée des Confluences. Incroyable. C'est un projet à long terme parce que j'ai beaucoup de mal à me forcer à aller dans un musée. Donc, j'en parle dès maintenant. Je vais en parler dans 4-5 émissions. Comme ça, peut-être qu'à force, je vais me motiver pour y aller.
C'est aussi une bonne résolution, en fait.
Voilà. Également.
Alors Marie, elle s'est pas forcée, elle a fait 3 musées à Vienne, mais est-ce que c'est un musée que tu vas nous conseiller? Parce que tu en as peut-être fait une overdose là pendant tes vacances ou...
Alors en effet, c'est pas un musée que je vais vous conseiller. Je vous propose d'aller mater des mecs en tenue moulante et détrempée. Le problème, c'est qu'ils seront aussi palmés et masqués.
Ah, c'est moins sexy tout de suite. Hein.
En fait, ça dépend de tes goûts, ça. Je veux dire, faut pas. Quelqu'un qui aime la ferronnerie.
Non, en fait, alors ça se passera le dimanche 18 janvier. Ce sont des plongeurs qui font la traversée de Lyon à la nage, qui s'amusent à descendre la Saône, je sais pas, après une overdose de galettes probablement, c'est pour éliminer, j'en sais rien, entre les ponts Poincaré et Raymond Barre, et donc on peut aller les encourager depuis les quais de Saône.
D'accord, donc tu feras la supportrice. Est-ce que Marie-Ève, tu vas te joindre à elle?
Mais je vais prêcher pour ma paroisse, plutôt sur les bords de Rhône d'ailleurs,
ouais.
Puisque après une ouverture le mardi et le jeudi, maintenant le Grand Temple ouvre ses portes aussi tous les premiers samedis du mois, et même si vous n'êtes pas croyant ou mécréant, même Florent, n'est-ce pas, pour venir
moi je m'enflamme en passant les seuils des églises.
Ce monument du patrimoine lyonnais.
D'accord. Bon, je pense qu'avec surtout ce dernier conseil de Marie-Ève, vous savez où aller dans Lyon pour vous occuper. Et comme c'est le début d'année, une des bonnes résolutions que je pourrais, moi, vous conseiller de prendre, c'est de vous engager dans une association. Alors à Lyon, il y a de quoi faire. On vous le prouve ici depuis le début de l'année, avec les Gones, certes. On rigole, on dit des bêtises, on vous divertit. Mais à la fin de l'émission, on redevient toujours sérieux pour mettre en avant une association qu'il mérite et vous donner envie de vous engager. Dans la dernière partie de l'émission, on vous montre que la ville lyonnaise est vraiment vivante. Aujourd'hui, c'est l'association Dans tous les sens qui œuvre pour la pratique de l'écriture et la création littéraire du plus grand nombre qu'on reçoit. Elle propose notamment des ateliers d'écriture hebdomadaires animés par les écrivains Mohamed El Amraoui et Roger Dextre. Et c'est justement ce dernier qui a pris place derrière le micro des Gones. Vous l'avez entendu déjà à plusieurs reprises dans l'émission. Bonjour Roger.
Bonjour.
Alors, Roger Dextre, vous êtes un poète français. Vos œuvres poétiques en deux volumes sont d'ailleurs disponibles aux éditions La Rumeur Libre. En 2012, vous complétez cette œuvre poétique d'un nouveau recueil intitulé Entendement et autres poèmes, toujours chez La Rumeur Libre. Vous avez fait des études de philo, vous vous êtes consacré à l'enseignement, puis vous avez travaillé de longues années comme éducateur auprès de personnes handicapées. Et je suis vraiment ravi de vous recevoir. C'est un petit peu un honneur. On aura l'occasion de reparler de votre parcours, de votre engagement au cours de cet entretien, mais vous êtes là pour nous parler de l'association Dans tous les sens. Et je le disais à l'instant, Dans tous les sens, œuvre pour la pratique de l'écriture et la création littéraire du plus grand nombre. Pour cela, elle propose notamment des ateliers d'écriture hebdomadaires que vous animez avec Mohamed El Amraoui. Ils sont ouverts à tous, il n'y a pas vraiment de critères à part le désir d'écrire. Ils ont lieu les lundis, mardis et mercredis 18h30 à 21h et un mardi toutes les deux semaines de 14h à 17h. Concrètement, Roger, quelle forme ils prennent ces ateliers ?
Bon, bah écoutez, la forme, elle est donnée par les gens qui viennent. Ouais. Déjà, par exemple, moi, ça fait quand même un certain nombre d'années que j'anime les ateliers. Je m'aperçois, ou on en parle avec les participants, que le ton et puis même certaines façons d'être de l'atelier dépendent énormément des gens qui viennent. Voilà. Il n'y a pas une sorte de méthode qui serait imposée dès le départ. Puis c'est pareil pour Mohamed, d'ailleurs, on en parle très fréquemment. Et c'est vraiment le désir des gens qui créent l'atelier lui-même. Alors la forme, si vous voulez, c'est qu'il y a un temps d'écriture qui est un peu nécessaire pour beaucoup de gens. C'est une sorte de rupture dans leur vie quotidienne. Donc il y a des gens qui, en fait, ont tout à fait les capacités d'écrire chez eux.
Et qui
ont besoin
trop,
de l'atelier. Non, et puis ils ont besoin de cette espèce de
déclencheur.
Oui, c'est ça, qui consiste à franchir la porte, à s'installer, à voir qu'il y en a d'autres qui écrivent dans leur coin. Donc voilà, il y a ce moment qui est très important donc, d'écriture personnelle.
Alors, je le disais, il n'y a pas de critères. On n'est pas obligé d'avoir fait des études littéraires, etc., de montrer patte blanche, parce que pour vous, c'est hyper important de dire « mais l'écriture, ce n'est pas élitiste ».
Alors, si vous voulez, là, c'est vraiment tout à fait clair. Hein. Donc, dans l'atelier que j'anime, par exemple, mais c'est pareil pour Mohamed, il y a des gens, bon, alors maintenant, qui vont de 17 à 77 ans, donc un peu comme dans... C'est pas 7 à 77 comme Tintin, mais...
C'est ça.
Non, c'est effectivement, il y a un panel d'âge extrêmement différent. Et il y a des gens qui sont... qui travaillent dans des emplois de... Oui, à la mairie de Vaux-en-Velin, oui, par exemple, des ouvriers. Il y a des médecins.
Tout le monde peut venir et
il y a même un conseiller régional.
Ah oui, d'accord. Tout le monde, vraiment, même les conseillers régionaux viennent.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une diversité absolument extraordinaire. Et c'est ça qui fait l'intérêt de l'atelier, quoi.
C'est intéressant. Alors, parce que c'est aussi des espaces de rencontres, des espaces de partage, où il n'y a plus les barrières, on va dire, du quotidien. Et vous les animez, on le disait, pas tout seul, vous êtes aussi avec Mohamed El Amraoui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur lui, le présenter à nos auditeurs?
Mohamed El Amraoui, oui, c'est un écrivain qui est originaire du Maroc, qui écrit à la fois en arabe et en français, ce qui d'ailleurs donne une vraie richesse au travail que l'on peut faire sur une ville comme Vaux-en-Velin, puisqu'on travaille naturellement a priori en français, mais on est très très sensible aussi à l'accueil des langues étrangères, pas simplement à celle du français. Donc écoutez, ça se fait de façon différente, mais on fait sur la ville des ateliers d'écriture multilingue. Il y a aussi des lectures multilingues qui sont organisées en lien avec les bibliothèques, et Mohamed c'est vraiment lui la cheville ouvrière
de ces lectures
de notre travail.
Parce que vous faites des lectures aussi un peu événementielles, donc dans des endroits. Et puis autre chose aussi dans tous ces projets d'associations qu'anime Dans tous les sens, c'est un atelier qui est tous les mercredis de 16h à 17h30, où cette fois-ci, c'est des enfants de 9 à 12 ans que vous accueillez. C'est ça, hein ?
Voilà, c'est ça, oui. Donc c'est un atelier qui a été créé il y a un peu plus d'un an, là.
Ouais.
Et qui est ouvert, donc il y a des enfants qui ont envie d'écrire, quoi. Parce que il faut, enfin, je complète un peu l'information en disant qu'on fait beaucoup d'ateliers aussi dans des classes, dans différentes classes, un peu dans le primaire, mais aussi beaucoup dans les collèges. Voilà. Donc,
ponctuellement, vous intervenez.
Voilà,
comme
c'est ça, oui, en lien avec des profs.
Et vous êtes content de voir qu'il y a ce désir d'écriture aussi chez les plus jeunes ?
Bah, écoutez, bien sûr, oui, c'est. Mais même chez les personnes adultes, tout à l'heure je parlais de personnes âgées, Vous savez, c'est incroyable quand même, des gens qui ont 70 ans, qui se mettent à écrire, qui disent « je ne sais pas écrire, ce n'est pas intéressant ce que j'ai raconté », puis qu'ils commencent. Alors c'est vrai que c'est aussi tout à fait émouvant chez les enfants. Avant-hier, là, je me promenais dans le quartier de la Soie, là, puis je ne sais pas, j'ai rencontré des collégiens que je n'avais pas vus depuis 2 ou 3 ans, qui sont venus me dire « bonjour, ben, voilà, ça fait plaisir ».
Bah, bien sûr, ça fait
plaisir. Et puis en plus, si vous voulez, il n'y a pas de niaiserie autour d'une... C'est vraiment parce qu'ils ont ils ont envie d'écrire, et ils se saisissent de quelque chose qu'on leur propose un peu différemment de ce qui se fait dans la scolarité. Ce n'est pas contradictoire, mais c'est un peu différent.
Bien sûr. Alors au départ, hein, d'ailleurs, ces ateliers, c'était une expérience initiée par la compagnie de théâtre LSD Les Arts Dramatiques. Les participants, les animateurs, ils ont voulu s'émanciper de ça, et ça a donné l'association Dans tous les sens en 2000. Mais ces ateliers très personnalisés, vous n'avez pas vraiment le rôle de professeur, c'est plus, vous êtes le déclencheur, c'est ça
Pas uniquement, les statuts de l'association indiquent que les animateurs doivent être des écrivains.
Oui, c'est votre cas.
Oui, mais si vous voulez, c'est pas par souci d'élitisme. C'est simplement qu'on dit, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de transmission d'un savoir, pas de choses comme ça. Il y a, par contre, un partage de l'expérience, et l'écrivain est garant, si vous voulez, quand même, qu'il s'agit bien d'écriture, qu'il s'agit pas de... on n'est pas en train de faire d'animation culturelle. Et si vous voulez, par rapport à d'autres mouvements culturels, où on n'a pas l'impression d'apporter quelque chose aux gens, mais plutôt de leur permettre une expérience et de la partager avec les gens qui sont présents au moment des ateliers, par exemple, mais plus largement ensuite au cours de lecture ou d'autres événements. Voilà, c'est dans cet esprit-là que ça se construit et que ça dure aussi, puisque ça fait quand même 15-20 ans que... Enfin, 15 ans si on prend l'association, 20 ans si on prend le départ avec... La compagnie de théâtre. Donc, vous voyez, je trouve que c'est quand même bien, puis que ça se fasse à Vaux-en-Velin.
Bien sûr.
C'est aussi quelque chose qui est une vraie affirmation, je pense, d'une pensée, d'une politique... Et puis, d'un désir, quoi.
Deux désirs
au pluriel.
Alors, vous parliez tout à l'heure des autres événements, dans tous les sens. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a des lectures au Grand Café de la Mairie, dans les bibliothèques, dans d'autres lieux culturels. La programmation, chers auditeurs, elle est sur le site internet www.danstouslessens.org. Et puis, tous les 2 ans, Dans tous les sens organise aussi une très jolie manifestation, Roger. Écriture hors les murs, à Vaux-en-Velin, toujours, évidemment. Cette manifestation, elle réunit les habitants, les centres sociaux, les associations, les organismes publics, les écoles et l'association, bref tout le monde, quoi, autour d'un désir commun, révéler la richesse et la diversité des écrits dans la ville. C'est tous les 2 ans, il y en avait une en 2013, donc si je calcule bien, 2013 plus 2, ça fait 2015, non ?
Oui, là, c'est cette année que ça va avoir lieu. C'est une... Et bravo, oui.
Pour merci, le calcul mental.
Vous savez, on a fait lettres, c'est pas facile.
Qu'est-ce qu'on va voir alors cette année dans le programme de écriture?
Alors, si vous voulez, écoutez, je vais être aussi rapide que possible. D'abord, c'est une manifestation, mais qui est un peu éclatée, parce que comme la ville de Vaux-en-Velin est éclatée et que ce sont des manifestations de proximité, du coup, on travaille beaucoup, par exemple, avec la Bibliothèque du Sud, Bibliothèque du Mas du Taureau, etc. Donc, il y a des événements qui sont autour de ces lieux-là. Et donc, il y a des lectures qui sont faites à partir de textes qui ont été écrits par les gens. Mais on travaille aussi beaucoup avec d'autres associations non vaudaises. Par exemple, on va travailler sur Vaud déjà, par exemple, avec le conservatoire, avec des musiciens. Puis on travaille souvent aussi avec des comédiens. Mais on travaille aussi, par exemple, avec l'association Sans Papier ou avec une association de Saint-Étienne, etc.
Mais on saisit bien que c'est un événement fédérateur et que vous concevez comme ça et qui met en valeur la richesse ville.
Et c'est une fête. C'est pas la prise de tête. Et c'est pas vraiment un festival au sens où on propose pas des choses toutes faites. Ce sont vraiment des participations des gens avec quand même quelques apports de gens qui viennent de l'extérieur, mais qui sont aussi dans cette dynamique. Je dirais de rencontres, d'expériences, mais avec on cherche aussi à ce qu'il y ait une véritable qualité du travail qui est présenté. C'est-à-dire que C'est pas de la pure et simple expressivité comme ça.
Écriture hors les murs, c'est à découvrir cette année à Vaux-en-Velin en 2015. Donc, petite pause musicale sur Transistor et une chanson de circonstance, poésie, signée Gaëtan Roussel sur son album Orpailleur.
Là dans nos yeux, pas une esquisse, à quoi tu vois que tout se précipite. Là dans nos yeux, pas une suite, à quoi tu vois que. En cas d'alerte, tout incendie, pensez à avoir de la poésie. En cas de clash ou d'inertie, pensez à avoir de la poésie.
Puisque j'ai la chance de vous avoir, Roger, j'en profite. Et nous allons parler un petit peu de poésie, de littérature, pour finir cette émission. Il se pourrait même un petit crossover entre Les Gones et Les Yeux ont des oreilles, spécial dédicace à Nicolas, qui prête d'ailleurs main forte en régie. Et puis dédicace à toute sa bande, hein, Mathilde est là aussi. Qu'effectivement, on entende quelques extraits de poèmes très bientôt dans cette émission. Mais d'abord, et c'est certainement la plus tarte des tartes à la crème, comme question, quel est votre poète préféré autour de la table ? Roger Dextre, je ne vous pose pas vraiment la question parce que je crois connaître la réponse. On vous doit Carrière de grève, une traduction des fragments d'Hölderlin, une publication bilingue suivie d'Abandon d'Hölderlin aussi chez Compact en 86. Votre poète préféré, s'il y en a, il y en a peut-être plusieurs, mais Hölderlin, il a une place particulière.
Certainement, oui, mais bon, si vous voulez, dans les poètes français, vraiment.
Oui.
Bon, écoutez, il y en a beaucoup aussi.
Il y en a tellement.
Non, mais quand même. Préféré, je dirais important, c'est pas...
Non.
Parce que...
Pas dire ainsi.
Char. Oui, ouais. C'est vraiment pour moi, ça a été...
René Char, ouais.
Vraiment existentiellement, si vous voulez. C'est quelqu'un qui a beaucoup marqué.
On voulait vous faire plaisir, Roger, on voulait lire un peu d'Hölderlin.
Eh bien, écoutez...
Et je crois que Maria
merci, en tout cas, déjà,
va commencer.
Merci.
Da ich ein Knabe war, rettet ein Gott mich oft vom Geschrei und der Rute der Menschen. Da spielt ich sicher und gut mit den Blumen des Hains und die Lüftchen des Himmels spielten mit mir.
Quand j'étais petit garçon, souvent un Dieu m'a sauvé. Des cris, du fouet des hommes, l'or, sûr et bon, je jouais avec les fleurs du bosquet, tandis qu'avec moi jouaient les brises du ciel.
Und wie du das Herz der Pflanzen erfreust, wenn sie entgegen dir die zarten Arme strecken. So hast du mein Herz erfreut, Vater Helios, und wie Endymion war ich dein Liebling, heiliger Luna.
Et de même que tu mets de la joie au cœur des plantes, lorsqu'elles tendent vers toi leurs bras délicats, tu m'as mis le cœur en joie, ô Père Helios. Et puis, comme Endymion, j'étais ton préféré, lune sainte.
Doch kannt ich euch besser, als ich je die Menschen gekannt. Ich verstand die Stille des Äthers, der Menschen Worte verstand ich nie. Mich erzog der Wohllaut des säulenden Hains, und lieben lernt ich unter den Blumen.
Pourtant, je vous connaissais mieux que j'ai jamais connu les hommes. Je comprenais de l'éther le silence, la parole humaine, jamais. M'éduquais les harmonies du bois murmurant, et j'apprenais à aimer au milieu des fleurs.
Im Arme der Götter wuchs ich groß.
C'est dans le bras des dieux que, poussant, j'ai grandi. On continue ce petit tour de table poétique. Florent, si t'avais un nom comme ça à me citer.
Oh, moi, sans aucune originalité, c'est Baudelaire.
Baudelaire, bah écoute, on n'est pas obligé d'être original, si c'est vrai, si c'est sincère. Mathilde, oh Mathilde, avec ta belle voix, qu'est-ce que tu vas nous citer comme poète ?
Pas très original non plus.
Oh, mais ça sera forcément original avec toi,
Apollinaire,
Mathilde.
Apollinaire m'a beaucoup marqué.
Apollinaire. Marie, même question. Ça sera aussi très original dans ta belle voix, Marie. T'as une belle voix aussi, hein, pas de jalousie. Hein.
Non, jamais. Alors, oui, c'est vrai que j'ai pensé à Baudelaire aussi, mais je crois que... alors, pour pas faire doublon avec Florent, je pense que je vais vous citer Corneille, parce que même si c'est un auteur de théâtre, je pense qu'il y a par exemple dans le Cid, les stances de Rodrigue et les passages de l'Infante qui sont magnifiques. Et je pense qu'on peut considérer que c'est de la poésie, oui.
Bien sûr que c'est de la poésie. Alors moi, j'aurais pu citer Apollinaire, je citerais Saint-John Perse et notamment le recueil « Vent ». Et on arrive vers la fin de cette interview. Roger Dextre, une question qui est rituelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, l'engagement associatif ?
Écoutez, je pense que si vous voulez, c'est quelque chose qui tourne quand même autour de l'écriture. Là, on va écouter ce magnifique poème de Hölderlin, où il dit « Finalement, j'ai écouté le silence d'Hélios, qui m'a plus appris que le langage des hommes. » En tous les cas, si vous voulez, dans l'écriture, il y a aussi un silence qui se manifeste par le fait qu'on quitte un peu la parole ou le bavardage du quotidien pour entrer dans quelque chose qui recherche la parole à un autre endroit. Je pense que, si vous voulez, ça, normalement, on croit toujours que ça ne se partage que de façon individuelle.
Oui.
L'expérience extraordinaire des ateliers d'écriture qui est nouvelle,
bien
qui
sûr.
Est quelque chose de contemporain, qui n'est pas du tout quelque chose, par exemple, qui existait dans la littérature du 19e, c'est précisément ce partage de cet endroit-là. Et je pense qu'effectivement, ça donne des possibilités d'entente, mais de création également, qui sont tout à fait nouvelles. Et c'est de faire vivre cela qui me paraît actuellement l'engagement.
Eh ben, ce sont de jolis mots pour résumer votre engagement associatif, Roger. Et le temps d'un jingle, je passe le relais des questions à Mégon.
Jean-Pierre ?
Si tu devais te comparer à une vedette de cinéma, à qui est-ce que tu te comparerais-tu ?
Je vous demande de vous arrêter.
When do you get to that point of enough is enough?
Never.
Alors forcément, celle dont j'ai envie de connaître la question, qui sera forcément magnifique. Mathilde, quelle est cette question magnifique que tu veux poser à notre invité?
Arrête de lui mettre la pression comme ça, c'est très méchant.
J'ai pas la pression, elle est parfaite, alors je sais que ça sera merveilleux.
Ah oui, non, pas du tout la pression, non.
Oui, alors j'ai bien compris que c'était très important pour vous de souligner le fait que l'écriture c'est fédérateur, et je suis assez d'accord avec vous évidemment, mais j'aimerais quand même rappeler une triste réalité sociale qu'il ne faut pas ignorer, c'est l'analphabétisme et l'illettrisme qui existent encore dans ce pays. Et j'aimerais quand même savoir ce que vous répondriez aux gens qui vous diraient que votre association est forcément un petit peu excluante socialement, parce que je sais pas vraiment quel rapport on peut avoir avec l'écriture et la littérature quand on a déjà un problème de maîtrise du monde de l'écrit.
Alors, écoutez, c'est très difficile de répondre très rapidement. Simplement, si on prend l'écriture simplement comme performance, c'est sûr qu'on n'y arrivera jamais. Si on part du fait que, par exemple, l'écriture, c'est vraiment une façon d'articuler le langage et l'adresse aux autres un peu différente, en ce cas-là, je pense que ça se retrouve dans toutes les civilisations et que ça se retrouve même auprès de gens extrêmement démunis. Par exemple, on travaille avec les petits frères des pauvres. Mohamed fait actuellement du travail avec des gens de l'école de la seconde chance. C'est au contraire redonner la possibilité à des gens qui s'en croient exclus, la possibilité de laisser des traces, alors qu'on leur a toujours laissé penser que ces traces étaient inaudibles, inintéressantes, voire même obscènes. Voilà. Donc, si vous voulez, il faudrait en parler plus longuement, mais et très concrètement. Je pense qu'on dans la perspective où on ouvre cet espace littéraire, c'est pas un espace d'exclusion.
Je comprends, Roger, on aurait forcément envie de parler plus longuement avec toi, Mathilde. Mais le mot de la fin, je vous le laisse, Roger, mais en poème, on va dire. Je vais lire un extrait d'Entendement et autres poèmes. Ayant saisi dans la nuit confuse le fil reconduisant au jour et dévidant la pensée, ou la mémoire, qui se croit fidèle, elle trouve enfin la lumière fade, mais pas la lumière qui règne seule et qui choisit son heure et d'embrasser la terre. Ou, ayant pris dans la nuit profonde le chemin reconduisant au jour et orientant la pensée, ou la mémoire, qui se veut fidèle, elle trouve enfin une lumière si seule et exilée qu'aucun temps n'en est la conséquence ni le voisinage. Être au départ, y aller par la posture et la vue, s'orienter ou se saisir de confiance, d'un viatique, en toucher la certitude, cela justement ne se décide pas encore. Sûrs et certains sont partagés. Merci d'être venu, Roger Dextre.
Eh bien, écoutez, merci de votre accueil.
Je rappelle votre
association. Et de vos lectures
aussi. Dans tous les sens à Vaux-en-Velin. Je voulais remercier une amie, Christine, qui fait partie de votre association, Roger. C'est elle qui m'en a parlé. C'est grâce à elle que cette invitation a été lancée et que cette émission s'est faite. Je t'embrasse, Christine. Merci à vous, chers auditeurs. Je vous embrasse aussi, hein, de nous être fidèles et d'être de plus en plus nombreux à écouter Transistor. Je vous souhaite une bonne année 2015. Bonne année et merci également à ENS Media qui, avec Xavier, Léo et puis tout le monde était là. Hein. Vraiment, tout le monde ont assuré la technique pour les aider. Nicolas, au jingle. Je vous donne rendez-vous le mercredi 28 janvier pour le 10e numéro des Gones. Et oui, déjà, en fin d'émission, nous recevrons cette fois-ci l'association France Alzheimer Rhône. D'ici là, vous le savez, même en 2015, un seul mot d'ordre, surtout, n'oubliez pas, dans Lyon, faites des gonneries. Alors je suis désolé, on a un quart d'heure de retard lié au fait que...